et Jérôme Béglé, donc pour la politique. On commence par là et on parle déjà donc de la présidentielle 2022. C'est pas pour tout de suite, mais la question se pose déjà dans les partis. Faudra-t-il organiser des primaires pour désigner les candidats? Ces primaires plébiscitées encore il y a peu par les militants sont aujourd'hui décriées. Pourquoi ce désamour soudain, Jérôme?
Le coup de grâce a été asséné par Christian Jacob, le favori pour prendre la tête des Républicains, qui il y a quelques jours affirmait avec force son opposition à des élections primaires pour désigner le candidat à la présidentielle de 2022. La droite, qui avait tant investi dans ce mode de désignation, vient de réaliser qu'il l'avait conduit plus à sa perte qu'à sa rédemption. Il faudra donc modifier les statuts du parti, c'est-à-dire convoquer un congrès réunissant tous les militants et leur demander leur avis. Ce sera fait après les municipales pour ne pas raviver évidemment les vieilles rancœurs, même si ce mode de désignation n'a jamais été très prisé par les militants de la droite. Au Parti Socialiste, qui a eu recours aux primaires en 2012 pour désigner François Hollande et en 2017 pour sacrer Benoît Hamon, les primaires non plus n'ont pas évité la déconfiture et la quasi-faillite idéologique du mouvement. Mais à ce jour, une primaire ouverte est également prévue dans les statuts. Mais évidemment, chez les socialistes, rien n'est jamais simple et il n'y a pas de consensus pour conserver ou pour changer ce mode de désignation. Attendez-vous donc à quelques débats houleux sur le sujet d'ici 2021.
Ouais, les primaires ont été plus contre-productive qu'autre chose, vous trouvez?
Il ne vous aura pas échappé, Sébastien, que le second tour de la présidentielle de 2017 a opposé deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui n'étaient ni l'un ni l'autre passés par ce mode de désignation.
C'est vrai.
Pendant longtemps, on a cru que les primaires étaient le meilleur moyen de faire la synthèse, de faire l'union autour d'un homme ou d'une femme. Sauf qu'au Parti Socialiste, Manuel Valls et François de Rugy, qui avaient signé en décembre 2016 un document dans lequel ils s'engageaient à soutenir le vainqueur du scrutin, ont trahi leur promesse. Moins de trois mois plus tard, ils ralliaient Emmanuel Macron. À droite, c'était à peine mieux, même si ce fut un peu plus tardif. Alain Juppé apporta un soutien, disons, très mesuré à François Fillon, tandis que Bruno Le Maire, lui aussi candidat aux primaires de la droite et du centre, est aujourd'hui ministre de l'économie et des finances d'Emmanuel Macron. Chez les écolos, le scrutin pour départager en 2011, Eva Joly de Nicolas Hulot, ne fut pas non plus un champ de rose. Entre les deux camps, le ton est très vite monté et l'ancienne magistrate termina à l'élection 2012 avec un piètre 2,31% des voix. C'est donc pas la panacée.
Alors si on fait plus de primaires, comment on désigne les futurs candidats à la présidentielle?
Comme autrefois, figurez-vous, ce sera un savant mélange de rapports de force internes, de codes d'amour auprès des militants, d'analyse fine des sondages pour savoir qui est le mieux placé pour figurer à l'élection. Parce qu'un candidat, ça doit rassembler son camp, évidemment, mordre sur un autre électorat, il doit maîtriser l'oratoire, il doit être solide physiquement, une campagne c'est épuisant. Solide politiquement, il doit surtout être une vraie alternative, donc afficher une personnalité différente du président sortant. Et ce sont souvent des critères irrationnels qui échappent aux militants et aux sympathisants des mouvements politiques. Mais ce sont aussi des critères qui pourraient redonner une utilité et une importance à des partis politiques qui aujourd'hui ont tellement mauvaise cote.
Merci Jérôme Béglé et on vous retrouve à 7h40, on parlera cette fois du